Bonjour à vous toutes et à vous tous. Merci pour votre fidélité. Aujourd'hui, je vais récompenser, ou essayer tout du moins de récompenser cette fidélité en vous racontant deux épisodes de mes vacances qui ont eu lieu tant en Grèce qu'en Israël. À cette époque-là, j'avais 12, 13, 14 ans, je ne me souviens plus exactement. Bon, c'est pas grave, tout ça m'a amené quelques souvenirs que je veux partager avec vous. Mais vous êtes en droit de me dire, mais oui, tu nous parles de tes vacances, mais que faisais-tu à l'école, où allais-tu, etc., etc. Alors, pour rester dans les vacances, je partais un peu à la demande de mes parents qui m'organisaient des petits voyages. Je partais un mois, généralement le mois de juillet, et puis le mois d'août, je continuais à venir fidèlement à Quiberon, accompagnant mes parents qui avaient toujours des locations un peu étranges au goût de ma mère, qui devaient s'adapter à un manque de confort, manque de tout. Bon, c'est pas grave. Les derniers temps dont je me souviens, moi, à ce moment-là, on habitait une villa près du boulevard Chanard, donc près de la plage. Et moi, pour ma part, j'avais laissé la villa à mes parents et j'habitais le garage. Alors, ce garage, je l'ai transformé en boîte de nuit. Il est arrivé plein d'aventures. Bon, c'était assez amusant, mais pour ça, il faudra que je raconte ça dans un autre podcast. Aujourd'hui, nous sommes le 19 août 2020. Je suis toujours à Quiberon, dans mon salon, tranquille. Michaela est partie à Aurède dans notre appartement et faire quelques courses dans cette petite ville. Donc, elle va revenir un peu plus tard. Et ce qui me laisse la maison pour moi tout seul et n'avoir qu'une seule compagnie, celle de mon horloge, que vous entendrez peut-être au hasard des blancs de ce podcast. Et une horloge qui marche toujours bien, mais ça, je vous l'ai déjà dit. Un autre bruit qui peut venir, c'est notre frigo. On a un frigo de marque Bosch, et quand on l'a acheté, on n'a pas fait attention, mais ce frigo cause. Alors, il fait des bruits différents selon ses états d'âme, selon ce qu'il fait, selon... Bon, on n'a pas toujours très très bien compris, mais ce bruit, vous pouvez l'entendre tout au long de mes enregistrements. Voilà, donc maintenant je vais vous parler de deux voyages, l'un que j'ai fait en Grèce et l'autre l'année suivante en Israël. Alors commençons par la Grèce. La Grèce, mes parents m'avaient réservé un petit séjour en groupe, avec un séjour en groupe et en camping. Donc nous partions de Paris, je ne sais plus de quelle gare, mais en train, et on rejoignait à cette époque-là Brindisi. Brindisi qui est une ville tout à fait au sud de l'Italie et qui fait face à la petite île de Corfou qui est elle-même près d'Athènes. Alors donc, nous avons fait ce voyage en train, ensuite Brindisi, Corfou, ben voilà, un petit voyage en ferry. Pour la petite histoire, c'est là où j'ai bu pour la première fois un café turc. Un équipage sympa, un gars m'a donné à boire un café turc, et de bonne façon d'ailleurs, c'était excellent, mais ça m'a empêché de dormir pendant plusieurs nuits suivant ce breuvage. Et bon, ben voilà, je me souviens du ferry avec un café turc au lendemain d'une nuit un petit peu courte, mais sympa. Arrivé à Corfou, ma première préoccupation, c'est le hasard qui fait les choses, je suis tombé sur un magasin de surplus américain et surplus de l'armée. Et là, j'ai tout de suite dépensé une partie de mon argent de poche pour m'acheter une petite Voyez une petite veste ou une chemise un peu épaisse, militaire, et qui me donnait un air de petit enfant de troupe. Et voilà, bon, ben ça c'était mon petit truc. Arrivé à Corfou, alors Corfou, petite île sur laquelle je me souviens que nous avons été voir la maison ou le petit château de l'impératrice Sissi, qui est venue y passer ses vieux jours. Et puis, bah, je me souviens pas, il y avait pas grand chose à faire à Corfou. Donc de Corfou, qui est une île, nous avons rejoint toujours par un même ferry Athènes. Là, on est dans la capitale de la Grèce. On est avec le Parthénon. Parthénon, vous savez ce que c'est. C'était le temple grec par excellence. Et au pied de ce temple, bon, qui m'a impressionné. Oui, certes, c'était le premier vrai monument historique que je voyais et qui me ramenait à ma scolarité. Mais bon, ça ne m'a pas bouleversé outre mesure. À cette époque-là, j'avais un appareil photo et j'ai pris une ou deux photos, plus ou moins réussies, de ce Parthénon, qui avait été quand même assez bien restauré. Ensuite, nous sommes descendus au pied du Parthénon à la Plaka. La Plaka, c'est un quartier tout entier d'Athènes où se côtoient des commerçants, des bistrots sympas. C'est le vieux Athènes. Et le vieux Athènes, on commence à voir des souks, etc., etc. Donc j'ai gardé un souvenir là aussi assez sympa. Par contre, ce qui l'a été un peu moins pendant mon périple, c'était d'aller au cinéma. Ouais, bon, un après-midi, avec deux, trois copains, on décide d'aller au cinéma. On était assez libre, hein. L'animateur, qui était sympa, bon, nous tenait un petit peu, mais nous laissait quand même la bride sur le cou. Et là, ce jour-là, nous nous retrouvons au cinéma pour voir quel film, je m'en souviens pas. Tout ce dont je me souviens, c'est que il y a eu une explosion. Pas tout à fait dans le cinéma, mais juste à côté. Alors là, ça a été un petit peu le branle-bas de combat. On a quitté très rapidement ce cinéma pour rejoindre le camp. Je sais plus où on campait, mais bon, on campait dans la région d'Athènes. Et là, j'ai eu quelques explications que je vous dois d'ailleurs. À cette époque-là, c'était l'époque des colonels. Les colonels avaient pris en main le pouvoir. On était à une époque où il y avait de mémoire Papandréou et puis d'autres gars. Tout ça, c'est très flou. J'étais quand même assez jeune, mais ces colonels avaient fait main basse sur le pouvoir, et cela engendrait des ripostes de la part de gens qui n'acceptaient pas d'être condamnés à suivre ces colonels qui, bon, c'était l'armée, quoi, et l'armée, ben, ça rigolait pas tous les jours. Voilà, donc cette explosion, ça je m'en souviens, c'était bien clair. Bon, nous avons déserté bien sûr ce cinéma pour rejoindre notre petit camp. Puis nous avons pris la direction du sud de la Grèce, toujours en train, en passant par le canal de Corinthe, où nous faisons une petite étape. Canal de Corinthe qui m'a vraiment impressionné, parce que ce canal a été creusé pour permettre de rejoindre la mer Égée avec l'Adriatique, ou quelque chose comme ça. Et c'est un canal très profond, entre deux murs de pierre, taillés dans la pierre, et où la largeur du canal ne permettait pas à certains bateaux de passer. Le canal était très étroit, et là, au moment où on visitait ce canal, un bateau passait, il devait pas y avoir plus de 50 cm entre la coque et la paroi. Donc il fallait des marins très habiles, mais paraît-il, ça leur faisait un gain de temps utile et cela leur évitait le tour du Péloponnèse. Le Péloponnèse, eh bien, c'était notre étape suivante. Le Péloponnèse, pays un petit peu contrasté, avec beaucoup d'oliviers, un petit peu de montagne, et puis la montagne qui se jette à travers une petite plage dans la mer. Voilà, ça, voilà ce dont je me souviens. On a fait un arrêt à Olympie. Olympie, ben, vous savez ce que c'est. C'est là le stade, le premier stade, ou encore ce qu'il en reste, qui a permis aux Européens de découvrir les Jeux Olympiques et d'en faire ce que vous savez aujourd'hui. Après Olympie, nous avons été à Delphes. Delphes, c'est un temple qui pourrait être vraiment très sympa, un temple un peu encaissé en montagne, avec de mémoire une sorte de petit théâtre. Et là, bon, ben, on s'est promené à travers ces pierres, à travers ces colonnes. Colonne qui me semblait mal restaurée, on voyait beaucoup de taches qui étaient là pour boucher les fissures de ces vieux cailloux. Mais il y avait un joli petit musée, je me souviens. Les gamins, bon, j'étais pas quand même un féru de musée, mais ce musée, bah, rappelait l'histoire du temple et rappelait l'histoire de la Pythie. Il y avait une Pythie qui prédisait l'avenir avec tout ce qu'il y avait de bien et tout ce qu'il y avait de catastrophique à l'époque. Donc, si, autre chose sympa. Et là, c'est mon premier rapport avec la philosophie dont j'aurai l'occasion de parler un peu plus tard au cours de mes études, les années passant. Sur le fronton du temple de Delphes, la Pythie avait écrit « Connais-toi toi-même ». Alors, ça m'avait vraiment un peu interpellé. Pourquoi avions-nous besoin de se connaître soi-même? Tout au quotidien, on vivait avec soi, et voilà. Mais là, vraiment, une question, et une vraie question philosophique commence à se poser. Connais-toi toi-même. Voilà, bon, mais ça, nous y reviendrons, parce que toutes ces traces philosophiques, ou plutôt toute cette philosophie a laissé des traces qui me permettront d'étayer un podcast prochain, mais faut laisser passer encore quelques années. Ensuite, nous avons poursuivi notre petit voyage de Delphes pour rejoindre le Péloponnèse, le sud du pays. Et là, il est arrivé une histoire amusante, on le dit, dans un train entre entre le temple de Delphes et les plages du Péloponnèse, dans un train assez amusant, un peu style western. Et dans ce train, il y avait tout un wagon avec des pop. Des popes, c'est le prêtre grec, ils ont des petits chapeaux qui font 15 à 20 cm de haut, et ils sont très... Bon, ils sont sympas. Ils sont sympas, souvent barbus, habillés de noir, mais souriants et très avenants. Et puis là, nous, les gamins, on était dans ce train, dans le même wagon que les popes. Mais on pouvait pas changer de wagon comme ça, il n'y avait pas de couloir qui permettait de mener à bien cette petite continuité. Et donc on était sur une sorte de plateforme, comme le train du western. Et sur cette plateforme, il y avait une sorte de manette. Et là, bon, ben, gamin, on touchait à tout, et puis, avec un copain, on commence à actionner la manette. Alors, il fallait tirer assez fort, et on tire fort, on savait pas à quoi ça correspondait. Bon, on avait vu que ça décrochait pas le wagon, mais on savait pas à quoi ça correspondait. Donc, on se met à deux, à s'arc-bouter pour tirer cette manette, et hop, on entend des grands cris dans le wagon. On était à l'extérieur, sur une petite plateforme. Et là, branle-bas de combat dans le train, plutôt dans le wagon, on avait, à travers cette manette, retourné les sièges, qui étaient tous orientés dans le sens de la marche, mais on les avait retournés, et ça se retournait automatiquement à travers ce simple geste d'actionner la manette. Et là, bon, tous les pop, bon, ils ont perdu leur chapeau, ils comprenaient pas, parce que ils se retrouvaient à contre-marche, alors qu'ils étaient dans le sens de la marche initialement. Bon, on s'est fait engueuler, mais... voilà, une petite anecdote de gamin. Et puis, toujours en allant vers le Péloponnèse, à un moment donné, le train s'arrête dans une région assez escarpée, mais assez verte. Et là, le train s'arrête, on était un petit peu dans une montée. Le pilote, le conducteur met le frein, et puis on le voit descendre. Et puis se mettre à quatre pattes et visiblement à chercher quelque chose. Bon, alors, comme on est arrêté, Claude y cherchait quelque chose. On avait fini de bidouiller notre manette pour retourner les pop. Et donc, on va accompagner ce gars. Bon, il parlait grec, nous pas. Et puis, bon, on échange un petit peu en anglais. Et il se trouve que ce conducteur recherchait une pièce du piston qui actionnait la roue du train. Bon, alors, on cherche, puis à un moment donné, lui retrouve la pièce. Alors, il prend la pièce, voilà, j'ai la pièce. Alors, je vais pouvoir la remettre en place, ça se fait assez facilement. Et puis le train est parti. Voilà, la deuxième petite aventure, avant de trouver le Péloponnèse et ses belles plages. La vie a été assez tranquille. Et j'ai découvert le sud de la Grèce, qui est vraiment très très beau paysage, avec des petits ports très avenants, des petits villages autour des petits ports, etc. Mais je vous en reparlerai un peu plus tard, parce que j'y suis retourné là-bas, et c'était vraiment vraiment très bien. Bon. Malgré tout, on campait, il fallait s'alimenter, et un beau jour, notre accompagnateur me demande, à moi et à un copain, d'aller chercher un peu de viande dans le pays. Bon, alors, on était dans un petit village, on va chercher de la viande, on se retrouve, on se renseigne, etc. Et puis on nous envoie vers une sorte de forgeron. Bon, alors, le forgeron, on va le voir, on lui dit qu'on veut de la viande, aucun problème, il va dans son frigo, il sort un bout de viande, puis comme on était une dizaine, bon, ben, il en fallait un bon morceau, et puis la viande, il la prend, et il la met sur son enclume. L'enclume sur lequel il travaillait ses outils à forger. Bon, il met ça sur l'enclume, et puis là-dessus, il te balance un coup de hachoir ou je ne sais quoi. Bon, je ne sais pas dans quel état il a retrouvé son hachoir, parce qu'à cogner sur l'enclume, ça ne devait pas être tout à fait ça, mais il nous a débité la viande. Mais pendant ce temps-là, sur l'enclume, plein de mouches venaient sur la viande, et bon, c'était pas très très ragoûtant. Bon, fort de ça, il nous a emballé notre viande dans un petit papier journal, et puis on est revenu au camp, on a raconté ça, après avoir payé, on est revenu au camp, on a raconté ça, ça a fait rigoler tout le monde. Un petit peu plus tard, on est resté quoi, une dizaine de jours là-bas, c'était sympa, sur la plage, à se baigner en groupe, et puis ce camping était pratiquement du camping sauvage. Et puis là, je sais pas ce qui m'est arrivé, un petit bobo, et j'ai demandé à voir un médecin. Alors, l'accompagneur m'a expliqué comment je pouvais trouver un médecin dans le village. Mais ce médecin, j'ai pas attendu, je suis rentré. Je lui ai expliqué ce que j'avais. Bon, je me souviens plus ce que j'avais, mais peu importe. Et puis, je discutais avec lui. Et on discutait en français, il parlait très bien français. Et je lui explique mon mal, etc. Et puis, autour de lui, il avait des livres de médecine. Et qu'est-ce que je vois pas dans ces livres de médecine ? Un livre commis par mon père quelques années avant sur les constantes biologiques. Et là, j'ai trouvé ça formidable, en Grèce, au fin fond du Péloponnèse, de rencontrer ce médecin, ce jeune sympa, et lui expliquer que le livre qu'il avait été commis par mon père, Alain Black-Belair. Alors, la discussion a pris un tout autre tour, ça a été très sympa, il m'a félicité pour mon père et la qualité de ses ouvrages, parce que Alain Black-Belair écrivait beaucoup. Mais nous en reparlerons peut-être un de ces jours. Voilà, le voyage s'est terminé et nous sommes rentrés en sens inverse pour rejoindre le Parthénon, pour rejoindre Corfou, Athènes, Corfou, et puis en direction train Paris. Voilà. Ça, c'était mon premier voyage en Grèce. Il y en a eu d'autres, mais on y reviendra. L'année suivante, me voilà parti en Israël. Toujours pareil, mes parents, pour éviter que je m'ennuie, au mois de juillet, m'ont envoyé dans un kibboutz cueillir des pommes. Alors, le deal était le suivant. Je cueillais des pommes pendant 15 jours dans le kibboutz, et puis les 15 autres jours, le kibboutz me finançait un petit déplacement privé, plutôt en stop qu'autre chose, pour rejoindre là où je voulais aller me promener en Israël pour faire la connaissance de ce pays. Voilà. Bon, donc on va commencer par... mon premier séjour en kibboutz. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un kibboutz ? Un kibboutz, c'était de grandes fermes, un peu style coopérative, qui avaient été créées en 1948, ou peut-être un petit peu avant, par les Israéliens. Quand ils sont venus coloniser l'Israël, il fallait bien donner à manger à tous ces gens qui étaient là, qui arrivaient de tas de pays et de tas de souffrances. Et les jeunes construisaient des kibboutz comme ça, où ils s'organisaient et ces kibboutz étaient spécialisés, entre guillemets, dans différentes cultures. Là, on était à cueillir des pommes. Ah, je vais y revenir. Mais le kibboutz lui-même était situé à la frontière sud des États, à la frontière sud du Liban et de la Syrie. Alors, la zone était quand même très sensible. Il y avait beaucoup de militaires dans ce kibboutz parce que la frontière était à deux pas. D'ailleurs, il y avait bien étalé au vu de et au sud de tout le monde dans le kibboutz un avion qui avait été un avion ennemi qui avait été descendu. Alors, je me souviens plus à quelle période c'était. Est-ce que c'était avant la guerre des six jours, il me semble, ou après la guerre des six jours et l'autre guerre dont le nom m'échappe. Bon, j'ai un peu oublié tout ça, mais peu importe. Là, j'ai passé quand même du bon temps. Alors, le rythme était à peu près le suivant. On se levait à 4 heures du matin pour partir à 4 heures et quart et monter dans des petites charrettes tirées par des tracteurs pour rejoindre les pommiers. Bon, alors... C'était un peu difficile, quoi, parce que bon, j'étais pas très très vieux, mais j'étais avec des jeunes comme moi et qui se levaient péniblement comme moi parce que la veille on avait fait un peu la fête, mais je vais y revenir. Et puis aller à la cueillette des pommes. Alors bon, comment les choses se passaient? On avait donc des champs de pommiers, des pommerais. Et on avait chacun une ligne, on était quoi, une quinzaine ou une vingtaine, et une ligne d'arbres méthodiquement dans lesquelles on devait monter avec nos échelles et notre panier pour cueillir les pommes et ainsi de suite, de pommier en pommier. Pas très passionnant cette affaire-là parce que il fallait les cueillir délicatement, il fallait surtout pas les entrechoquer parce que ces pommes allaient partir dans des grands frigos pour être exportées à l'étranger, me semble-t-il, et donc il fallait pas qu'elles s'abîment dans ce frigo, donc il fallait faire extrêmement attention. Et une fois que le panier que nous avions en bandoulière était rempli, eh bien, on devait redescendre de l'arbre et aller le vider dans des grandes caisses que les tracteurs avaient amenées au préalable. Voilà, bon, eh bien, rangée après rangée, arbre après arbre, et ben, on montait, on descendait, on cueillait nos pommes. Il y avait quand même toute une partie qui était assez délicate. Des serpents venaient se loger dans les branches des pommiers, et on risquait de se retrouver nez à nez avec un serpent au moment où on allait cueillir les pommes. Bon, c'est ça ne m'est pas arrivé à moi, mais c'est arrivé à un copain. Et donc, on faisait extrêmement attention. Voilà. Donc, cette affaire-là, ça a duré une quinzaine de jours. J'ai oublié de dire que mon kibboutz, à la frontière du Liban et de la Syrie, était dans un petit village qui s'appelait Kiryat Shemona. Kiryat Shemona. Voilà, qu'est-ce que je relis mes notes là? Oui, on était surveillés pendant tous nos travaux dans les pommerais. On était surveillés par des narhals. Les narhals, c'était des jeunes femmes, qui étaient mobilisées pour faire leur service militaire. Hein. À l'époque, l'Israël était un pays extrêmement sensible, extrêmement fragile, donc ils mobilisaient toute leur jeunesse, et notamment les filles et les garçons. Alors les filles, nous surveillaient dans nos pommerais, elles étaient armées, elles veillaient surtout à ce que on fasse bien le job, quoi, et qu'on avance bien tous en même temps, chacun sur sa ligne pour cueillir ses pommes. Et ces filles, elles s'ennuyaient un petit peu, et le soir, autour du feu, parce qu'on mettait des grands feux on mettait des grands feux. Et derrière ça, on avait la possibilité, de danser avec elles, on passait du bon temps, quoi. C'était vachement sympa. Et puis c'était les mêmes qui le lendemain matin se levaient comme nous à 4 heures pour nous accompagner et nous surveiller et nous garder aussi parce que on était quand même dans une région assez sensible au sud du Liban et de la Syrie avec lequel Israël était en guerre assez permanente. Voilà, ça c'était la partie. À cette époque-là, on couchait dans des vieux baraquements en bois de l'armée américaine. Et ce baraquement était surchauffé, tandis qu'on travaillait le matin de 4 heures à midi, l'après-midi, les baraquements étaient chauffés. Et puis c'était pas très très agréable, et c'est pour ça qu'on avait meilleur compte à aller danser autour du feu le soir plutôt que de rejoindre notre couche qui était quand même surchauffée. Voilà, voilà ce qui s'est passé pendant une quinzaine de jours. Alors le deal, comme je le disais tout à l'heure, le deal était: tu travailles 15 jours et l'État israélien te paye 15 jours de voyage dans son pays pour que tu fasses connaissance avec le pays. Donc j'ai quitté au 15e jour mon kibboutz, toujours en stop. Hein. Et là, le stop marchait bien. Bon, c'est un pays assez jeune et où les déplacements sont assez faciles, tout du moins dans la partie habitée d'Israël. Et tu prenais, t'étais vite pris en stop par les uns et par les autres. Et donc, j'ai rejoint le lac de Tibériade. Là, il est arrivé une petite... petite histoire que j'ai trouvée assez singulière. À cette époque-là, ben, le mouvement hippie commençait à naître à droite et à gauche. Et bon, je n'étais pas encore assez mature pour comprendre ça, mais on y reviendra plus tard. Et donc, sur le lac de Tibériade, eh bien, j'ai rencontré un jeune hippie qui avait une guitare. Et puis qui, bon, vivait un peu d'amour et d'eau fraîche. Et on était sur une terrasse, lui avec sa guitare, à faire un refrain vraiment extrêmement lancinant. Et ce refrain revenait, toute la... ça a duré des heures. Et à un moment donné, j'entends « pouf, pouf !» Gros bruit. Je regarde. Je vois rien par terre, on dominait le lac, hein. Et à ce moment-là, j'ai vu deux avions. Un MiG, qui était un avion russe syrien, qui combattait avec un Mirage français, certes, mais occupé par un Israélien, et qui combattait en l'air. Il se tirait dessus. Bon, alors c'est assez surréaliste parce que l'ambiance avec mon hippie qui faisait des, comment dirais-je, une musique lancinante qui s'arrêtait pas. Et puis, on voyait ces deux avions qui, pouf, pouf, se tiraient dessus. Et à un moment donné, il y en a un qui a décroché et qui est tombé dans le lac de Tibériade. Bon, alors ça, moi, ça m'a complètement assis de voir que j'étais dans un pays qui était vraiment en guerre, même si elle était larvée, même s'il y avait... Hein, et de ce fait, eh bien, j'ai vu mon premier combat, seul combat aérien de ma vie. Après Tibériade, ben, je suis parti pour aller voir Tel Aviv. Tel Aviv, une grande ville, très moderne, sur la mer. Bon, rien de bien passionnant, mais cette ville était, comment dirais-je, était à quelques kilomètres de Jérusalem. Alors, je me suis laissé dire que entre Jérusalem à l'est, Tel Aviv à l'ouest, si on coupait cet axe, eh bien l'Israël serait complètement paralysé. Ce qui fait que cet axe était extrêmement bien gardé, des militaires partout, des camions, plein de bidasses dans tous les sens. Et j'ai quitté Tel Aviv pour rejoindre Jérusalem. Là, Jérusalem, le mur des Lamentations. Ça m'a frappé quand même de voir ces Israéliens venir se recueillir au mur des Lamentations. Il y avait à côté de ce mur des Lamentations, il y avait un musée, une sorte de musée, dans lequel était... disposer des tas d'éléments concernant la Shoah, et notamment des savons faits avec de la graisse humaine, au cours de la Shoah dans les camps de concentration, quoi. Alors, ces savons faits de matière humaine, moi, ça m'a frappé. Bon, j'étais vraiment bouleversé de voir ça. Et, gamin, quoi, j'étais pas tout à fait préparé à ça. Préparé à une certaine violence, hein, de la part de ces Israéliens qui étaient là, on l'a vu, avec ce combat aérien, mais dans mon kibbutz aussi, gardé par des Nahal en mitraillette. On a vu un pays qui était alerté, qui se savait fragile, quoi, mais avec des jeunes extrêmement combatifs. Ça aussi, ça m'a frappé, parce que quand tu venais de France, un pays de la douceur bien française, quand tu venais de France, ben c'était pas, il y avait quand même un gros contraste. Malgré tout, Jérusalem, le mur des lamentations, la mosquée El-Aqsa ou un nom comme ça, avec toute une partie de la ville qui était tout à fait inaccessible. Bon, c'est pas très clair dans ma tête. Aujourd'hui, je sais qu'il y a un grand mur qui coupe la ville en deux. À l'époque, j'ai pas vu de grand mur, mais j'ai vu beaucoup de bidas, beaucoup de soldats qui gardaient partout dans tous les sens. Voilà. Et donc, mon voyage se poursuit de Jérusalem. J'ai été faire un tour, toujours en stop, dans la mer Morte. Alors ça, c'est quand même étonnant de se baigner dans cette mer extrêmement salée, avec une densité de sel telle que tu peux pas nager, tu peux t'asseoir, tu t'assois dans la mer morte comme si tu t'asseyais sur un siège et tout se passe bien, tu t'allonges, ben c'est pareil, tu bois jamais la tasse. Bon, c'est une mer extrêmement solide, quoi, extrêmement grasse, extrêmement, voilà. Donc je me suis baigné là. Je me souviens aussi avoir fait un truc assez marrant avec des copains. On a joué aux cartes sur la mer morte. Alors je ne sais plus à quel jeu on jouait, mais on posait les cartes sur l'eau et les cartes ne coulaient pas. Voilà. Bon. Après cet épisode un peu salé, ben on s'est rincé. La mer morte est quand même encaissée là dans une grande vallée. On s'est rincé. Et puis, bon, ben, le voyage se poursuit. Bon, j'avais toujours des connaissances, mais je n'étais pas attaché, je voyageais souvent seul. Après la mer morte, je me souviens, j'étais sur le plateau de Masada. Le plateau de Masada, c'est une grande bataille des Romains contre des Juifs à l'époque, hein, parce que les Juifs habitaient là. Et les Romains venaient en pays conquis et avaient installé sur ce grand plateau, un peu en hauteur, une forteresse, et je pense que ça s'est mal terminé pour eux. J'en suis pas sûr, mais bon, voilà. Encore mes souvenirs. De la mer morte, de Masada, je passe à Beersheba. Beersheba, c'est l'entrée du désert. L'entrée du désert du Negev. C'est une ville extrêmement moderne, entourée de verdure, de champs, de beaucoup de cultures à Beersheba. Et c'est là où on voit que toute l'irrigation israélienne avait montré tout ça très significativement et donné un certain sens à ce pays qui avançait et qui conquérait sur le désert. Et effectivement, toute cette irrigation qui venait du Jourdain, hein, le lac, le fleuve qui passe du nord au sud de l'Israël, et étant bien au sud, bien, ils avaient construit pas mal d'irrigations, etc. C'était assez surprenant parce que on les voyait conquérir le désert, on les voyait apporter de la terre, apporter ci, apporter ça, et puis d'un jour sur l'autre, ils gagnaient du terrain sur le désert. À l'entrée de ce désert, j'ai été pris par des soldats qui ont fait un stop à... Même pas fait un stop, ils étaient en casernement là, dans un kibbutz, un grand kibbutz avec une tour au milieu, Et cette tour, eh bien, c'était là où habitait Ben Gourion. Ben Gourion avait été un des initiateurs, grands initiateurs politiciens de la création d'Israël, hein, après 1948, si ma mémoire est bonne. Et là, Ben Gourion passait sa retraite dans ce kibbutz, déjà dans le désert, et entouré de soldats. On n'était pas très très loin, quand je dis pas trop loin, il y avait quand même quelques kilomètres de la bande de Gaza, pour situer un peu ça, et puis peut-être de la frontière égyptienne, je sais plus exactement. Voilà. Là, bon, après m'être restauré et pris, me reconstituer, parce qu'en stop, c'était... Bon, certes, on te prenait souvent, mais tu pouvais tanker pendant quelques heures entre deux embarquements, souvent sur des camions, etc. Voilà. Donc, le kibbutz de Ben Gourion, après, je devais traverser le désert. Mais ça, c'était une autre paire de manches. Je m'y étais un petit peu préparé parce que j'avais rencontré des gens qui avaient fait cette petite démarche et qui m'ont dit, bon, ben voilà, alors pourquoi je voulais traverser le désert ? Pour rejoindre une ville, une jolie ville, sur la mer Morte, pas la mer Morte, la mer Rouge, pardon, et qui s'appelait Elat. Donc je devais passer d'un axe, grosso modo, Beersheba, Elat, par le désert du Negev. Un désert du Negev, bon, bah, c'est pas un truc très sympa. Il y a beaucoup de cailloux, des petites montagnes, des petits cols à franchir, etc., etc. Bon, alors, de façon très utopique, je me suis mis à l'entrée du désert à faire du stop, et puis là, des voitures passaient, mais s'arrêtaient pas. Et ça m'avait quand même un petit peu interpellé. Donc, voulant pas rester au soleil, etc., etc., bon, j'ai commencé à marcher à pied. Et puis là, il m'est arrivé une petite aventure dont je me souviens souvent. C'est que bon, j'étais équipé, j'avais une bonne gourde, j'avais un peu de quoi manger, etc. Mais je pensais normalement que je serais pris pour traverser ce désert qui fait une soixantaine de kilomètres et pour rejoindre Elat. Et puis là, bon, bah, personne ne me prend, personne ne s'arrête. Puis il y avait de moins en moins de monde. On allait rentrer dans le désert. Et j'avance à pied comme ça pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et puis au loin, je vois une montagne, petite montagne, beaucoup de cailloux, hein, pas, il y avait pas de sable, hein, il y avait pas de dunes, il n'y avait pas de choses comme ça. C'était de la caillasse, quoi, hein, beaucoup de caillasse. Donc avec une réverbération assez lourde et puis des cailloux qui gardaient la chaleur, quoi. Et là, sur ce fronton de montagne, je vois une grosse pancarte marquée Coca-Cola. Et là, ça m'a quand même un petit peu interpellé, ça, de voir ce gros truc de Coca-Cola en plein désert du Negev, sachant bien sûr que les Américains, les Israéliens étaient pro-américains, mais bon, voir du Coca-Cola comme ça, écrit en grosses lettres, bon, alors j'avance vers le Coca-Cola. Et puis je commence à monter et à ce moment-là je vois plus trop l'enseigne de ce breuvage et bon j'avance de plus en plus péniblement et puis à un moment donné un petit parking, une petite esplanade et là je vois une sorte de buvette, de grande buvette, personne autour, ben, ouais, et là, encore marqué Coca-Cola. Alors, je m'approche, et j'étais vraiment complètement desséché, il fallait que je boive. Et j'ai commencé à demander du Coca-Cola au gars qui était là. Et il m'a dit, non, non, pour toi, pas de Coca-Cola, mais de la limonade. Bon, alors, parce que le Coca-Cola, il paraît, quand on est complètement desséché, ça t'arrange pas. Donc me voilà parti avec 1 litre de limonade que je descends en 1 minute ou 2, ensuite un deuxième litre, ensuite un troisième litre, et au bout du troisième litre, là, j'étais complètement... comment dirais-je, rassasié de liquide. Voilà, me voilà requinqué, je commence à parler avec le gars, lui expliquer que, bon, ben, je venais de Beersheba à pied. Il me regarde, ouais, ben oui, pas de stop, pas de voiture, et d'ailleurs, sur son parking, qui était sur la route, sur l'axe Beersheba, et Elat, personne, donc, tout ça, ceci expliquant cela. Et bon, je pouvais pas rester là parce que la montagne, cette petite montagne était quand même pas très agréable. Et le gars m'explique, ben, que Beersheba, c'est une trentaine de kilomètres plus loin. Bon, alors je redescends et, en espérant toujours trouver une voiture parce que là, passer 3 jours dans le Negev, c'était quand même. Et puis, ben, je redescends et vers Elat, que je vois pas, parce que le désert du Negev était encore là, tous ces cailloux, toutes ces roches, tout ce sable, c'était même pas du sable, c'était très poussiéreux, quoi, ça. Ouais. Et puis j'avance, espérant toujours que quelqu'un me prendrait. Et je continue, et à un moment donné, je vois un gros nuage venir du sud, venir des lattes, quoi. Et ce gros nuage, je m'aperçois que c'est du sable. Et je me retrouve dans complètement environné de sable. Et là, ça a été extrêmement compliqué parce que cette tempête de sable, parce que c'en était une, eh bien, rentrait de partout. J'en avais de partout, dans la bouche, dans les yeux, de partout. Et là, bah, je me suis assis dans un coin et en attendant que ça passe. Et tout l'environnement dans lequel j'étais était ensablé, bon, sur quelques millimètres, mais on voyait à peine la route, quoi, on voyait, etc. Et je me suis assis à côté de la route, j'en pouvais plus, j'étais assez exténué. Et puis là, un camion est passé, il m'a vu, il s'est arrêté, il m'a pris, bah, et j'ai poursuivi avec lui jusqu'à Elat. Il y avait encore un peu de tempête de sable, mais j'étais dans le camion ridelle ouverte et pas protégé, mais bon, j'ai pu continuer ce voyage sans trop d'encombre. Arrivé à Elat, eh bien, j'avais une adresse où je devais aller, où quelqu'un pouvait m'accueillir et passer un jour ou deux. Et donc je me rends, je ne sais plus où c'était, mais Elat, des toits tout blancs, des réserves d'eau sur le toit, parce que l'eau chaude c'est vite fait là-bas, hein, ils mettent une réserve d'eau et puis au soleil ça va vite, hein, à chauffer. Et puis j'avais prévu d'aller faire un tour dans un boutre sur la mer Rouge. Alors qu'est-ce que c'est qu'un boutre ? C'était des petits bateaux de 7-8 mètres dans lesquels on pouvait aller et faire un petit peu de plongée sous-marine sur la mer Rouge, qui était quand même, paraît-il, formidable. Et là, bon, ben voilà, je vais dans le petit port d'Elat, je trouve le bateau qui va bien, et comme ça, on est parti pendant 2 jours, donc j'ai passé une nuit sur le pont, et à plonger, sans bouteille, sans rien, quoi. C'était vraiment dénudé de tout, quoi. Mais c'était dans l'eau. Et après cette tempête, bah, de sable, bah, t'étais content, quoi, de pouvoir te nettoyer dans la mer, de pouvoir rejoindre un élément liquide. Et là, bon, je me baignais avec d'autres, hein, j'étais pas tout seul, mais avec d'autres. Et puis À cette époque-là, je nageais assez bien, et à un moment donné, le gars avec qui j'étais me fait signe de plonger. Alors, donc, je plonge. Et puis, il me montre que, ben voilà, on peut. C'était pas très profond, hein, il y avait 4-5 mètres. Et là, dans le fond, il me dit d'attendre. Alors, j'attends. Et à un moment donné, est arrivée une raie manta magnifique. Et cette raie est venue obstruer le soleil qui donnait sur la mer. Et donc, quand elle est passée au-dessus de nous, c'était formidable, quoi. Elle était majestueuse, voilà le qualificatif que je sortais. Cette raie manta majestueuse passe au-dessus de nous, avec derrière son dard, qu'il vaut mieux éviter parce qu'il peut, il peut te faire très très mal. Et là, elle obstrue le soleil, parce qu'il faisait assez clair, et là, on se retrouve un peu dans une atmosphère complètement assombrie, et c'était très beau, avec de très jolis petits poissons, etc. J'ai beaucoup apprécié ce petit périple. Voilà, mon voyage ici en Israël va se terminer. Je ne sais plus comment j'y suis allé, je ne sais plus comment je suis parti, sans doute en avion, et pour rejoindre mes parents en France. Et ensuite, eh bien, comme on était sans doute fin juillet, j'ai retrouvé mes parents à Quiberon, où j'ai passé plein de bon temps. Et ça sera l'objet d'un autre podcast, parce qu'il y a plein de choses à dire. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'étais un petit peu long, mais j'ai trouvé sympa de vous raconter ça. Passez plein de bon temps, et puis ravi de vous retrouver sur un prochain podcast, et passer quelques minutes avec vous.